Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis Biotine, l'émission d'actualité scientifique entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé parce que vous avez eu cette idée géniale de récupérer les podcasts et nous vous en remercions. Je m'appelle Jean-Noël, je suis content de vous retrouver pour ce 14 mai, journée mondiale contre l'hypertension artérielle. Voilà, c'est bon à savoir, des fois placé dans une conversation. Au niveau de l'éphéméride, 14 mai 1796, Edward Jenner effectue la première variolisation. C'est en préalable à la première vaccination contre la variole. Et en 1973, c'est le lancement de la première station spatiale américaine qui s'appelle Skylab. C'était donc un 14 mai 1973. Naissance, le 14 mai 1863 de John Fields, mathématicien canadien. Ah, Fields, ça nous dit quelque chose, oui, parce qu'il est connu pour le développement de la médaille qui porte son nom, la médaille Fields, qui a été proposée en 1923. Elle est considérée un petit peu par certains comme étant le prix Nobel en mathématiques, bien qu'il y ait des différences dans les prix. Alors, son projet de médaille date de la fin des années 1920, mais du fait de son état de santé, il ne peut assister à sa concrétisation parce qu'il meurt en 1932 après une maladie de 3 mois. Et dans son testament, il laisse 47 000 $ au fond de la médaille Fields, qui a été remise d'abord en 1936. Cette médaille, elle est remise tous les 4 ans depuis 1950 au Congrès international des mathématiciens à 2, 3, 4 méritants qui sont obligatoirement âgés de moins de 40 ans. Et donc voilà, c'était ce mathématicien canadien, John Fields, qui est donc né le 14 mai 1863. Décès le 14 mai 1997 de Paul Pelas, chercheur français spécialisé notamment dans l'étude des météorites. C'est au niveau de l'éphéméride. Alors, je voulais revenir sur un article qui évoquait Mars. On va dire à peu près 50 ans, les différentes missions martiennes nous ont renvoyé des milliers d'images assez saisissantes de la surface de Mars, mais jamais un seul son. Et comme le souligne le communiqué de presse il y a quelques semaines de Isae Supaéro, la mission Persévérance de la NASA a mis fin à ce néant sonore en enregistrant les premiers sons martiens audibles par l'oreille humaine. Comment ? Eh bien, avec un microphone, le Mars Microphone, qui a été conçu par Isae Supaéro et qui a été installé sur Supercam. Alors, s'il est vrai que la NASA n'était pas très convaincue de l'intérêt de l'embarquer à bord de Persévérance, ce n'était pas le cas de l'équipe du Microphone, qui était persuadée que l'étude du paysage sonore de Mars pouvait faire avancer notre compréhension justement de cette planète. Et le pari de l'équipe de David Mimoun, responsable scientifique du Microphone Supercam et professeur donc à Isae Supaéro, est donc gagnant. Il est aujourd'hui possible d'entendre les vrais sons de la surface martienne et l'étude de ces sons a un réel intérêt pour la planétologie. Alors, preuve de l'intérêt scientifique de cet instrument, eh bien la prestigieuse revue Nature publie les travaux de l'analyse de ces sons par une équipe internationale qui regroupe des scientifiques du CNRS et également de l'Isae Supaéro. Alors, mais si écouter le rover qui est en train de rouler sur Mars, le laser du Supercam contre les roches martiennes ou alors le vent qui souffle, tout ça peut apparaître ludique, et bien pour les scientifiques il n'en est rien, bien au contraire. En avril 2021, Naomi Murdoch, chercheur à l'Isae Supaéro en charge de l'analyse des sons martiens, expliquait qu'il y a un réel intérêt technique et scientifique à écouter les sons sur Mars parce que bien sûr ça ne va pas révolutionner la connaissance de la planète, mais plutôt améliorer ses connaissances dans de nombreux domaines, en particulier pour ce qui est de la connaissance de l'atmosphère martienne et de ses interactions avec la surface. Alors, cela dit, s'il est possible d'écouter Mars, il faut savoir que les sons martiens révèlent un monde étonnamment calme, silencieux, si calme que certains scientifiques ont parfois cru que le microphone ne fonctionnait plus, c'est dire. Force est de constater qu'en dehors du vent, eh bien, les sources sonores naturelles sont rares. Alors, preuve de son utilité scientifique, le microphone est aujourd'hui utilisé largement par l'équipe d'études de l'atmosphère, notamment pour en apprendre davantage sur les turbulences et ce qui est justement la bonne surprise de ces sons. Leur analyse approfondie a rendu perceptible le son généré par la turbulence présence de l'atmosphère martienne et ça a permis son étude à des échelles 1000 fois inférieures à ce qui était connu. Les scientifiques ont ainsi montré que la vitesse du son est plus faible sur Mars que sur Terre, mais le plus surprenant est qu'il existe en réalité deux vitesses de son sur Mars, une pour les aigus et une pour les graves. Et l'atténuation du son est plus forte sur Mars que sur Terre, particulièrement les aigus qui se perdent très vite, même à faible distance, contrairement aux graves. Et tous ces facteurs rendraient une conversation difficile entre deux personnes qui seraient séparées uniquement de 5 mètres, c'est dire. Ils sont dus à la composition de l'atmosphère de Mars et à la très faible pression à sa surface. Alors l'intérêt du microphone n'est pas seulement scientifique, elle est aussi technique. Avec le lancement de la mission, on savait que les enregistrements de sons générés par le rover lui-même pouvaient nous permettre de mieux comprendre la signature sonore de ces différents mouvements et donc nous renseigner sur son état de santé mécanique, comme les opérations du bras robotique et du mât, le roulage sur le sol normal ou sur un sol accidenté. Et donc ce microphone agit comme, on va dire, un genre de stéthoscope pour le rover parce que ça fournit un diagnostic sonore de sa bonne santé. Les ondes de choc produites par l'impact du laser sur les roches ou les vols de l'hélicoptère Ingenuity ont également été utiles aux scientifiques. Et ces ondes ont fait l'objet d'études sur la propagation sur Mars de ces sons, dont le comportement est parfaitement connu sur Terre, et ça a permis de caractériser finement les propriétés acoustiques de l'atmosphère martienne. Alors ensemble, tous ces résultats démontrent que la mesure du son aide à l'étude de l'environnement acoustique d'autres planètes et à la compréhension des atmosphères planétaires. Et ces résultats militent également à ce que les prochaines missions planétaires embarquent maintenant des microphones. Avec un poids de quelques grammes, eh bien le micro de Supercam pèse 13 kilos. Ça ne devrait pas être contraignant à pouvoir l'intégrer. Et du coup, voilà, c'est une belle prouesse technique et du coup, une véritable efficacité et un véritable intérêt scientifique. C'est ça qui était également à prouver et c'est désormais prouvé. Donc on en sait un petit peu plus. On avait écouté dans cette émission il y a 2 ans, je crois, le son qu'on avait sur Mars. Alors c'est vrai que c'était un silence avec un bruit de vent assez particulier. On avait écouté ça, mais effectivement, ça permet de recueillir un petit peu plus de connaissances, d'informations sur ce qui se passe sur cette planète Mars, bien évidemment. Vous écoutez Biotine et vous avez raison, sur Graphite, on écoute aussi un peu de musique. Clouds flash overhead. Just he lied and he thinks. No aim for the tanks. Bambara avec It Light Night. It Lightning. Je suis arrivé sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez bien. Je suis nul en anglais, en fait. Faut quand même l'avouer. Il y a un moment, il va falloir que je fasse quelque chose. Surtout que dans les articles qu'on évoque dans cette émission, il y a très souvent des noms en anglais, des noms de revues scientifiques ou autres. Donc voilà, bon, c'est un bon exercice pour moi. Biotine, une émission d'actualité scientifique et également émission d'actualité médicale. Il y a deux articles que je voulais évoquer avec vous. Le premier concerne le cancer du sein, qui est le plus fréquent chez la femme. C'est aussi le plus meurtrier. Entre 10 à 20% d'entre eux sont qualifiés de ce qu'on appelle HER2+, car les cellules malignes ont à leur surface une quantité anormalement élevée de ce récepteur HER2, qui sont activés par des facteurs de croissance. Et ces récepteurs confèrent en cancer un avantage non négligeable. Ils prolifèrent rapidement et il est moins sujet à ce qu'on appelle l'apoptose, c'est-à-dire le phénomène de mort cellulaire. Et il s'entoure de nombreux vaisseaux sanguins pour assurer son apport en oxygène et en nutriments. C'est une cible thérapeutique importante et la recherche d'une surexpression de ce fameux HER2 est systématique chez les femmes atteintes d'un cancer du sein. Et donc, empêcher l'activation de ce HER2, c'est limiter la croissance et la prolifération du cancer. Et la stratégie de soins pour les cancers du sein est basée sur deux éléments. Un anticorps monoclonal qui va se fixer sur ce récepteur HER2, qui va bloquer son activation, et puis aussi une molécule chimique cytotoxique, donc toxique pour la cellule. Il y a plusieurs combinaisons qui sont disponibles sur le marché, qui sont prescrites selon l'état de santé de la patiente et la réponse du cancer. Parmi l'arsenal thérapeutique à disposition, le traitement de première ligne peut être composé de ce qu'on appelle le trastuzumab. Alors c'est l'herceptin que certains connaissent, l'anticorps monoclonal, et puis aussi une autre molécule. Les résultats, s'ils ne sont pas probants, il y a une combinaison qui est faite avec une autre molécule qui peut être utilisée. Et puis il y a une troisième ligne également avec une autre combinaison de médicaments qui permet cette fois d'être peut-être un petit peu plus efficace, mais c'est un petit peu plus puissant, donc ça peut avoir des effets un petit peu plus compliqués. Dans le cadre d'un essai clinique qui a été mené par une équipe internationale de chercheurs, eh bien ils ont réévalué un petit peu l'utilisation de ces combinaisons de médicaments en tant que traitement de deuxième ligne et ils ont comparé tout ça avec d'autres essais qu'ils ont mis en place. Leur étude est parue dans la revue The New England Journal of Medicine et du coup on a réussi à trouver quand même des combinaisons assez intéressantes qui augmentent significativement la survie sans progression de la maladie des patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein HER2+. Elles sont un peu plus de 500 patientes à avoir été assignées au hasard dans l'un des deux groupes de ce test et elles ont toutes reçu un traitement composé justement d'une combinaison qui n'a pas fonctionné et donc on a réévalué un petit peu les différentes combinaisons de molécules avec des nouveaux essais. Je vous épargne le nom de ces molécules assez compliquées, mais en tout cas on a réussi à avoir des meilleurs résultats et en fait la conclusion de cette étude, c'est que le fait qu'on ait pu identifier un récepteur à la surface des cellules qui sont concernées par ce cancer, ce fameux HER2, ça devient une cible assez intéressante. Comme ça, on arrive à mieux cibler la cellule cancéreuse, ciblée dans le sens localisé. Et donc, en se focalisant justement sur ce récepteur, on est capable de pouvoir trouver des combinaisons d'anticorps et de molécules qui vont augmenter la survie des patientes. C'est donc le cas dans cette étude qui a été publiée il y a quelques semaines dans cette revue britannique. Et du coup, même s'il y a des effets secondaires qui sont importants, eh bien on constate une survie des patientes, une diminution des risques de progression et donc une amélioration des thérapies qui sont mises en place. Donc voilà, c'est au niveau du cancer du sein qui, pour ce traitement, apporte des résultats assez prometteurs. C'est ça qui est intéressant. Deuxième information concernant cette fois les accidents cardiovasculaires et notamment l'athérosclérose qui est le rétrécissement des artères, voire l'obstruction des artères, qui est une maladie sérieuse qui peut entraîner entre autres un infarctus du myocarde. Les médecins peuvent visualiser les plaques d'athérome afin d'en évaluer la sévérité, grâce à un scanner, et ils ne peuvent pas avoir régulièrement recours à cette technique parce que l'interprétation doit être effectuée par un spécialiste et ça nécessite jusqu'à une demi-heure. Donc on a des contraintes à la fois, je dirais, matériel entre guillemets, ou des contraintes de personnel. Des chercheurs du centre médical Cedars-Sinai aux États-Unis viennent de mettre au point une intelligence artificielle qui permet d'analyser les résultats de ce scanner en 5 à 6 secondes. L'outil a été décrit dans le journal The Lancet, cet outil serait capable de prédire le risque de crise cardiaque avec jusqu'à 5 années d'avance. C'est totalement fascinant. Les chercheurs ont entraîné justement cette intelligence artificielle à reconnaître les fameuses plaques d'athérome sur une base de données qui contient des images de scanners de plus de 900 patients. Et donc, ils ont testé leur outil sur les images en provenance de plusieurs centaines de patients par la suite. Ils ont obtenu une très forte corrélation avec les experts humains sur la quantité totale de plaques qui ont été mesurées. Et donc, les chercheurs, ils ont établi un seuil de plaques d'athérome pour séparer les patients en deux groupes, ceux qui ont un risque faible et ceux qui ont un risque élevé d'infarctus dans les 5 ans. Ils ont validé leurs résultats sur plus de 1600 patients différents qui participaient à une étude et ils ont pu prédire correctement le risque de crise cardiaque. Les chercheurs ont indiqué que de plus amples études, bien sûr, sont nécessaires, mais qu'avec leur outil et un simple scanner, ils pourraient prédire si une personne risque l'infarctus et quand elle serait susceptible de le faire. Je trouve ça totalement fascinant, ce genre d'information. Premièrement, on remplace donc un expert, un médecin expert, par une intelligence artificielle pour pouvoir lire des images de scanner. Et ensuite, on arrive à avoir une estimation, on va dire, du risque sur une durée de 5 ans. C'est assez fascinant, bien évidemment. Mais voilà, c'était deux articles, j'allais dire plutôt encourageants, même si ça touche des choses quand même qui sont assez intimes et dramatiques. Mais je trouvais que voilà, ces deux articles, c'est aussi ça, la science, c'est aussi l'avancée, et notamment là dans le domaine de la médecine, où on a maintenant des technologies qui nous permettent d'aller un petit peu plus loin dans les thérapies à mettre en place dans certains cas, ou des solutions, voilà, dans le cas de maladies très graves, bien évidemment. Donc c'est toujours intéressant de voir toute cette avancée et on voit ça au plus près, semaine après semaine, dans le cadre de cette émission. Là, on n'est pas du tout dans la médecine, mais alors, on revient sur... c'est un article que j'avais repéré il y a déjà 2 mois, je crois, et j'ai pas eu le temps de l'évoquer. Je voulais revenir sur la commercialisation de la viande de culture. Alors c'est au-delà de la question de l'autorisation de sa commercialisation sur le marché européen, mais tout l'enjeu de la viande de culture se trouve dans la capacité de ses producteurs à trouver une solution pour la fabriquer à grande échelle. Eh bien en Israël, il y a une entreprise qui pourrait y être parvenue à l'aide d'un ingrédient qu'on n'attendait pas, c'est le tabac. Oui, ils fabriquent de la viande avec du tabac, c'est assez fascinant. D'ailleurs, c'est dans ce pays que le sujet de la viande in vitro a commencé à éclore. La start-up Alep Farms est l'une des tout premiers laboratoires à avoir communiqué autour de la culture d'un steak à partir de cellules souches. Et c'est depuis la création en 2017 que ça a été mis en place. Et pour découvrir la nouvelle étape qui se joue dans la saga de la viande de culture, il faut aller cette fois quitter l'agglomération de Tel Aviv et on va aller cette fois du côté de la frontière nord avec le Liban. On est toujours en Israël et l'autre start-up s'appelle BioBetter. Elle s'est spécialisée dans la production du milieu de culture nécessaire à la reproduction des cellules, pouvant à terme ressembler à un steak. C'est quand même assez fascinant. Fondée par un chercheur de l'université de Jérusalem, et bien l'entreprise propose une alternative économique à ceux qui espèrent commercialiser de la viande de laboratoire en faisant pousser des plantes de tabac. Alors avant de devenir un morceau de viande, les cellules ont besoin d'acides aminés, ce qui va leur permettre de créer des protéines, des nutriments, mais aussi des facteurs de croissance pour se reproduire. Et ces facteurs de croissance constituent des éléments très coûteux. Et tout l'enjeu d'une production à grande échelle, ça réside dans le simple fait de ne plus utiliser de sérum fœtal qu'on prélevait dans les abattoirs et d'essayer de trouver d'autres solutions. Et les entreprises travaillent actuellement pour rechercher une solution plus éthique et moins onéreuse que d'utiliser du sérum de fœtus bovin. C'est ce qu'avait expliqué Jean-François Hoquet, chercheur à l'Institut national de recherche pour l'alimentation, l'INRAE. C'était en début d'année et du coup, il avait été interviewé et il avait apporté un petit peu son point de vue. Et cette société donc privée israélienne vante les mérites économiques de sa technologie en précisant que la production de ces facteurs de croissance ne coûte qu'un seul dollar par gramme. Alors Israël est devenu une destination majeure pour les recherches autour de la viande sans viande, entre guillemets. Hein. Selon Les Échos, le journal Les Échos, le pays regroupe 10% des entreprises qui travaillent sur ce sujet dans le monde. Donc c'est vraiment là où on avance un petit peu plus dans ce domaine de recherche. Les sociétés concernées ont investi plus de 500 millions de dollars l'année dernière, d'où dit-on. La plus grosse enveloppe derrière celle des startups américaines, 700 millions de dollars aux États-Unis, 500 millions de dollars en Israël pour développer de la viande. Et là, cette fois, on fabrique de la viande avec du tabac. Je sais, voilà dans le monde dans lequel nous vivons. Hein. Mais bon appétit si vous êtes à table. Vérifiez si votre steak est un vrai steak de viande ou si c'est un steak de tabac. Allez savoir. Je ne sais pas. C'est ça. C'est ça la science. C'est ça l'avancée. C'est ça le progrès, nous dit-on, humain.
Bye.
C'était Baba Ayola, le titre, hein, Baba Ayola, et le groupe Cocoroco sur l'antenne de Graphite. Alors, j'étais en train de chercher ce dont je pouvais vous évoquer par la suite. J'ai tellement d'articles, je suis tellement en retard dans ma revue de presse. J'ai plein d'articles. Mais en même temps, je suis tombé là-dessus. Je me suis dit, tiens, on vient parler de la viande. Donc, je me suis dit, tiens, qui aime bien manger de la viande? Les chiens, notamment. Eh bien... C'est peut-être pas si certain que ça. Il y a un article assez intéressant qui explique que certains humains qui partagent la vie d'un chien ont déjà sauté le pas. Ils ont choisi de faire suivre à leur animal de compagnie le même régime qu'eux, c'est-à-dire un régime vegan, par conviction en général. Parce que manger de la viande a un impact très important sur l'environnement, parce que les conditions de traitement des animaux utilisés comme nourriture laissent à désirer. Mais jusqu'alors, ils ne disposait pas d'études sur laquelle s'appuyer afin de savoir si ce régime vegan pouvait être bon ou pas sur la santé des chiens. Et bien, des chercheurs des universités de Winchester au Royaume-Uni et de Griffith en Australie, et bien, ces chercheurs se sont enfin attelés à la question. Ils ont interrogé plus de 2500 personnes sur les habitudes alimentaires de leurs chiens, prenant note du nombre de leurs visites chez le vétérinaire, de leur utilisation de médicaments et plus généralement de leurs troubles de santé. Et selon que ces chiens étaient soumis à un régime vegan ou mangeaient de la viande ou voire même de la viande crue. Et bien résultat, les chiens qui suivent un régime classique à base de viande semblent être ceux qui vivent en moins bonne santé. Viennent ensuite ceux qui suivent un régime vegan et enfin ceux qui mange de la viande crue. C'est quand même une petite surprise, car des études antérieures avaient suggéré que la consommation de viande crue entraînait chez les chiens un risque accru d'agents pathogènes et de carences nutritionnelles. Apparemment, ça ne semble pas être le cas. Les chercheurs reconnaissent bien sûr que les résultats doivent être considérés avec prudence, parce qu'on est quand même quelque part sur une idée de questionnaire, bien évidemment. Et aussi parce que les personnes qui ont des chiens mangeant de la viande crue semblent être naturellement plus réticents à consulter un vétérinaire pour leur animal aussi. Et les chiens véganes qui ont donc participé à l'enquête étaient quant à eux globalement plus jeunes que les autres, parce que voilà, on est sur un phénomène assez récent. Donc les vieux chiens, n'ont pas eu ce régime-là. On est plutôt sur des petits chiens, enfin des jeunes chiens pour l'instant. En attendant des études encore plus poussées, eh bien les chercheurs estiment toutefois qu'un régime vegan sain sur le plan nutritionnel pourrait être le plus sain et le moins dangereux pour la santé de nos animaux, nous dit-on. Mais voilà, les chiens pourraient être vegan maintenant, pourquoi pas, après tout, allez savoir. Autre information, alors ça c'est vraiment intéressant, c'est ce drone de renseignement et de combat qui pourrait voler à plus de 7400 km/h. C'est un projet ambitieux conduit par l'avionneur américain Lockheed Martin. Alors pour le moment, la société n'en est qu'au début des essais de sa motorisation, et donc il y a un mois, début avril, c'est sur un concept de missile hypersonique que la firme a pu tester un réacteur. Et donc avec ce réacteur, il a pu atteindre à peu près 20 000 mètres d'altitude. Alors, si on est encore loin d'un véritable prototype, on sait déjà que ce drone portera le nom de SR-72. C'est une appellation qui rappelle celle du SR-71, le fameux Blackbird à la livrée noire et au profil aplati. Avec sa faible signature radar et ses équipements, et bien cet avion se destinait au renseignement durant la guerre froide. Alors capable d'évoluer à Mach 3, c'était alors l'avion le plus rapide, et son altitude de croisière de 20 000 mètres le mettait hors d'atteinte des missiles. Et avec l'emploi des satellites à l'imagerie de plus en plus précise, l'appareil avait été retiré du service à la fin des années 90. Et bien son successeur maintenant n'aura pas de pilote. Il ira donc deux fois plus vite pour réaliser à la fois des missions de renseignement et du bombardement dit de précision avec des missiles tout autant hypersoniques. Côté rayon d'action, eh bien, l'aéronef pourrait décoller des États-Unis, survoler des cibles en Europe ou en Asie en moins de 90 minutes. C'est quand même totalement fascinant. Et pour réaliser ces vols, eh bien, le SR-72 devrait être équipé de deux types de motorisation. Pour le décollage et la mise en croisière, on trouvera ainsi des turbines classiques permettant d'atteindre 3700 km heures, et ensuite des statoréacteurs qui vont entrer en fonction, et l'idée c'est de pouvoir propulser l'aéronef jusqu'à donc 7400 km/h. Alors pour Lockheed Martin, combiner ces deux réacteurs pose des soucis, comme ce fut le cas dans le développement du fameux Blackbird. Il faut aussi trouver des métaux adaptés aux hautes températures et puis un système de refroidissement efficace pour que les moteurs puissent fonctionner à des températures inédites en vitesse hypersonique. Mais malgré ces contraintes, eh bien, l'avionneur est confiant et estime donc que son SR-72 pourra voler dès 2025. Donc 2025, c'est demain, pour une mise en service en 2030. Donc voilà, un drone capable de rejoindre l'Europe en 90 minutes. C'est totalement fascinant, en fait, quelque part. Et on voit par la suite, je dirais, l'évolution de certains conflits qu'il peut y avoir entre États. C'est parce que si on peut aller d'un continent à l'autre en 90 minutes, enfin, je veux dire, on est maintenant sur une guerre qui n'est plus une guerre locale, mais on est sur une guerre planétaire, bien évidemment. Donc c'est assez, je sais pas, c'est assez inquiétant, bien évidemment. Allez, on écoute un titre pour nous remettre de nos émotions et on se retrouve toujours sur l'antenne de Graphite. Shiner avec Nothing sur l'antenne de graphite. Repartons dans l'espace avec Apophis, qui a été découvert en juin 2004. Un astéroïde de 350 mètres de long et 27 millions de tonnes. Et en l'espace de quelques semaines, la communauté scientifique s'était inquiétée à l'époque d'un impact possible avec notre Terre. Un impact qui avait été prévu en avril 2029. Alors, cette inquiétude avait duré uniquement quelques semaines parce que dès décembre 2004, eh bien, des données d'archives avaient montré que la collision était très improbable. Et puis, il y a eu des nouvelles données qui ont été recueillies depuis. Et du coup, on sait que l'orbite de cet astéroïde est désormais suffisamment définie pour pouvoir exclure avec certitude tout impact pendant au moins 100 ans. Donc, on est tranquille avec Apophis pendant au moins 100 ans et c'est tant mieux. Mais la collision n'est pas la seule possibilité dans les événements d'approche comme celui-ci. C'est ce que précise Gabriel Bercedes Mota, qui est chercheur à l'Université de Madrid, en Espagne, dans un communiqué. Il explique que l'interaction gravitationnelle entre une planète et un astéroïde comme Apophis peut modifier la forme de cet astéroïde, le briser en morceaux, désintégrer d'éventuelles roches détachées à la surface ou même éliminer d'autres corps en orbite autour de l'astéroïde, des roches, des satellites, des anneaux. Et avec son équipe, il a analysé les caractéristiques physiques d'Apophis, sa forme ainsi que son champ gravitationnel et les facteurs qui pourraient influencer sa trajectoire et son angle de pente, la pression de radiation par exemple, ou les perturbations dues à ses passages à proximité de la Terre. Et donc les chercheurs ont réalisé une série de simulations numériques pour essayer justement de comprendre comment les objets et des particules essentiellement en orbite autour d'Apophis pourrait être touché par un rapprochement avec la Terre. Et donc, dans un premier cas, tenons compte uniquement des perturbations gravitationnelles et dans un second cas, incluant les perturbations dues à la pression du rayonnement solaire. Et le tout par période de 24 heures sur une durée de 30 ans avec une densité d'objets en orbite variable. C'est quand même une analyse assez fouillée et assez intéressante. La conclusion, c'est que l'angle d'incidence de l'astéroïde apparaît plus important pour une faible densité d'objets en orbite que pour une forte densité. Par ailleurs, lorsque la densité des particules diminue et que la pression du rayonnement solaire augmente, ces objets en orbite peinent à rester intacts. Et finalement, dans un scénario où Apophis aurait une faible densité, environ 90% des roches détachées à sa surface seraient arrachées à l'approche de la Terre. Et donc, les chercheurs montrent ainsi que l'approche de cet astéroïde Apophis pourrait avoir une incidence minime sur les marées et produire quelques glissements de terrain à la surface de l'astéroïde. Alors les astronomes espèrent désormais profiter du passage justement d'Apophis à proximité de notre planète, donc c'est en 2029, pour pouvoir affiner leur modèle et mieux prévoir à l'avenir les effets que pourraient avoir les événements d'approche d'astéroïdes en général, bien évidemment. Mais donc voilà, pas de panique, mais on en saura un petit peu plus, ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux certains phénomènes, bien évidemment. Autre chose au niveau de la médecine, on parle de douleurs chroniques lorsque celle-ci persiste plus de 6 mois, que les traitements ne la soulagent pas correctement et qu'elle a un impact considérable sur la qualité de vie de la personne. Ce type de pathologie nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Il y a plusieurs éléments de la littérature qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle les hommes et les femmes ne ressentent pas la douleur de la même façon. Il y a une équipe qui a souhaité approfondir le sujet et ses travaux ont été publiés il y a quelques semaines dans la revue Brain. Les femmes souffrent plus souvent de douleurs chroniques que les hommes, c'est un fait. Par exemple, 90% des patients atteints de fibromyalgie sont des femmes. Les femmes sont 2 fois plus sujettes aux maux de tête et aux migraines que les hommes. Et dans la prise en charge de la douleur et en particulier de la douleur chronique, le fait que le patient soit un homme ou une femme est trop peu souvent considéré. Et donc les mêmes protocoles sont proposés justement aux hommes et aux femmes. Et il faut remonter la genèse d'un médicament pour comprendre pourquoi. En effet, les études sur les circuits neuronaux de la douleur menées chez l'animal, le plus souvent sur des rats, ne portent quasi exclusivement que sur des mâles. Et donc, dans les essais chez l'homme, s'il y a autant d'hommes que de femmes incluses, eh bien les données des sujets masculins et des sujets féminins sont rarement analysées de façon séparée. Et donc ces chercheurs, ils ont souhaité étudier les mécanismes neuronaux qui sont sous-jacents aux douleurs chroniques en fonction du sexe. Et pour ce faire, il y a des échantillons de moelle épinière issus de 10 femmes et de 12 hommes qui ont pu être récupérés chez des patients décédés qui avaient fait don de leur corps à la médecine. Et donc du coup, on a pu prélever ces tissus humains. et pardon, j'ai perdu ma page, voilà. Et des rats et femelles ont essayé, on a également inclus dans l'expérimentation des rats mâles et des rats femelles. Et on a identifié une protéine qui a la propriété d'augmenter la sensibilité à la douleur. Celle-ci n'a pas provoqué les mêmes réactions dans les tissus humains féminins ou masculins. Et chez les animaux, hein, donc les rats, mâles ou femelles, les mécanismes neuronaux de la douleur étaient différents en fonction du sexe. Pardon. Alors, ce qui est plus intéressant encore, c'est que les rats femelles qui avaient subi une résection des ovaires réagissaient comme des rats mâles. Enfin, c'est quand même assez fascinant. Alors, ces résultats, ça apporte bien sûr des enseignements concernant l'interprétation des données issues des expérimentations chez l'animal et des essais cliniques chez l'homme. Eh bien, elles mériteraient donc d'être réalisées séparément, sexe par sexe, ce qui implique qu'il y ait suffisamment de sujets, bien sûr, dans chaque groupe. Mais concernant la conception des traitements antalgiques, eh bien, ils doivent cibler des mécanismes communs aux deux sexes, par contre. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, comme il y a une réaction différente du mécanisme de la douleur, entre guillemets, du coup, on va peut-être pouvoir réfléchir sur des actions thérapeutiques peut-être un petit peu mieux ciblées et donc un peu plus efficaces, bien évidemment. Voilà, mais voilà, c'est donc un fait qui doit être corroboré par d'autres études, bien évidemment, sur le fait que les hommes et les femmes ne ressentent pas la douleur de la même façon. C'est ce que montre donc cette étude. Allez, on va écouter Godzillionaire sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer comme ça à feuilleter l'actualité scientifique.
lonely playing is the nothing playing. The nothing playing. The lonely playing is the only playing. The nothing playing is the only playing.
Smoke, c'était Godzillionaire sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On a parlé des drones tout à l'heure, donc du coup j'ai retrouvé pendant ce titre de Godzillionaire un article qui parle des drones avec ce nouveau record du monde pour un drone. On sait que l'un des inconvénients des drones, c'est leur autonomie qui est plutôt faible. Et le problème principal, c'est que pour accroître l'autonomie, il est nécessaire d'augmenter la quantité d'essence ou alors la taille de la batterie, donc ça va alourdir l'appareil, ça va réduire les gains. Bref, on n'arrive pas à trouver de solution. Il y a certains constructeurs qui ont contourné l'obstacle en remplaçant par exemple les rotors par un ballon, et l'autonomie est ainsi exceptionnelle, mais l'appareil est quand même beaucoup moins polyvalent. Et on retrouve cette société Lockheed Martin qu'on évoquait tout à l'heure, qui continue de travailler sur les drones quadrirotors, donc les drones avec les quatre hélices, les quatre rotors, et a réussi à établir un nouveau record du monde pour un appareil de groupe 2 selon le classement du département de la défense des États-Unis. Le groupe 2, c'est entre 5 et 25 kg. Et bien donc 25 kg pour un drone, quelque part, oui, c'est lourd relativement. Pas dans cet exploit qui fait que ce drone a réussi à voler pendant 39 heures, ce qui est quand même un record. Et pour atteindre ce nouveau record, le constructeur a modifié un drone qui disposait d'une autonomie de 8 heures avec une pile à combustible à oxyde solide qui utilise du propane comme combustible. Et donc du coup, l'appareil pèse environ 20 kilos et peut atteindre une vitesse quand même de 93 km/h. C'est quand même pas mal. Une altitude de 3600 mètres, ce qui est quand même pas mal non plus. Et dans le cas présent, eh bien, Lockheed Martin a ajouté un petit réservoir à propane sous son aile et le constructeur a ainsi optimisé l'appareil pour l'endurance, mais ne donne pas de détails sur les modifications effectuées. Donc la firme a demandé la certification du record auprès de la Fédération aéronautique internationale. Mais donc du coup, 39 heures de vol, c'est un vrai record, record du monde pour ce drone. Et là, on voit que les drones, c'est, enfin, au niveau de la technologie des drones, on a bien compris depuis quelques années que c'était quand même dans une... Enfin, c'est vraiment le domaine par excellence dans lequel on arrive à développer des technologies totalement fascinantes. Donc voilà, je vais trouver cet article. Ça permettait d'illustrer l'article qu'on évoquait tout à l'heure avec ces drones qui peuvent atteindre les États-Unis jusqu'à l'Europe en 90 minutes, bien évidemment. Autre sujet qu'on évoque quasiment toutes les semaines également dans cette émission, c'est la partie énergie, bien évidemment. Et on va parler cette fois de l'hydrogène, qui serait la star peut-être de la transition énergétique. C'est un vrai sujet. Jules Verne, dans son roman L'île mystérieuse, ça date de 1874, écrivait ceci. « Oui, mes amis, je crois que l'eau sera un jour employée comme combustible, que l'hydrogène et l'oxygène qui la constituent, utilisés isolamment ou simultanément, fourniront une source de chaleur et de lumière inépuisable et une intensité que la houille ne saurait avoir. » C'est Jules Verne qui écrivait ça. Et plus d'un siècle plus tard, l'hydrogène est devenu un enjeu stratégique pour réussir cette transition énergétique nécessaire vers la neutralité carbone à l'horizon 2050. C'est ce qu'ont promis les pays qui avaient signé l'accord de Paris sur le climat. Pour autant, cette mission, elle n'est pas aisée, bien évidemment. Aujourd'hui, 95% de l'hydrogène produit dans le monde est conçu à l'aide d'énergies fossiles. Alors, il est pourtant possible d'en fabriquer sans émettre de dioxyde de carbone. Bien, c'est avec le principe de l'électrolyse de l'eau et de l'électricité décarbonée. Mais si un bond technologique a pu être effectué ces dernières années, il y a des questions, il y a même carrément des véritables verrous technologiques qui subsistent à propos de sa production, mais aussi des trois phases principales qui conditionnent son utilisation, c'est-à-dire la compression, le stockage, la distribution. Alors, il s'agit là, bien sûr, de pouvoir trouver des solutions innovantes et adaptées et ainsi répondre aux besoins en hydrogène, des besoins qui vont être drastiquement accrus, notamment dans le secteur de la métallurgie, de l'industrie chimique et de la mobilité lourde, c'est-à-dire les trains, les bus, les camions, les bateaux. Et puis aussi, on est même dans le transport aérien et aérospatial. Alors à moyen terme, l'hydrogène pourra ainsi constituer un élément de stabilisation des réseaux énergétiques et contribuer également à la flexibilité du système électrique en apportant un mode de stockage, notamment saisonnier. Alors la France a un rôle majeur dans compétences et perspectives d'avenir. Elle peut tirer profit de ce marché émergent, notamment en matière d'emploi, qu'on estime à 100 000, à peu près 100 000 emplois à l'horizon 2030, à condition d'initiatives de structuration et de soutien de la filière, bien évidemment. Alors, bien entendu, la France et l'Allemagne ont promis d'investir chacun environ 7 à 9 milliards d'euros dans le secteur d'ici 2030. Et la Commission européenne a élaboré depuis l'année dernière une feuille de route jugée ambitieuse. La volonté politique, elle est donc bien réelle, mais encore faut-il que les acteurs du secteur puissent parvenir à atteindre leurs objectifs ambitieux, notamment sur la réduction des coûts sur l'ensemble de la chaîne de valeur et la mise en place d'infrastructures, tant en matière de capacité de production, de transport, de distribution, bien évidemment. C'est un véritable enjeu, l'hydrogène. Et du coup, si on arrive à pouvoir utiliser, produire, transporter, distribuer, utiliser cet hydrogène à grande échelle, on aurait véritablement une belle solution en ce qui concerne la transition énergétique. Donc, on est sur des sujets qui, justement, permettent d'apporter des solutions assez intéressantes à la transition énergétique pour pouvoir essayer de résoudre cette problématique du dérèglement climatique, bien évidemment. Donc, l'énergie, on en parlera très souvent dans cette émission, parce que c'est un enjeu majeur, bien évidemment. Et donc, l'hydrogène est une piste intéressante, comme pour d'autres. On écoute un dernier titre avant de nous quitter sur l'antenne de Graphite. Sleepy Pietro, c'était Machine Drum sur l'antenne de Graphite, fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, merci, au revoir.